Commentaire sur l'Évangile selon Luc, chapitre 1er. Dans les premiers versets de son Évangile, Luc déclare le but qu'il s'est proposé en l'écrivant. Il souhaite apporter la certitude à l'esprit d'un certain païen converti. Dieu avait donné à Luc une parfaite connaissance de toutes choses depuis le commencement, aussi maintenant il les écrit par ordre. Nous allons voir, à mesure que nous avançons, que parfois il laisse de côté l'ordre historique pour présenter les choses dans un ordre moral et spirituel. La compréhension de cet ordre moral et spirituel, ajouté au récit ordonné de ces faits, devait apporter la certitude à Théophile, et l'apportera à nous aussi. Nous voyons ici comment la certitude est liée aux Saintes Écritures, la parole de Dieu. Si nous n'avions pas les Saintes Écritures, nous ne serions sûrs de rien. Le premier et le deuxième chapitre nous présentent les fêtes se rapportant à la naissance de Christ ainsi que des tableaux attachants du résidu pieux en Israël, ce résidu duquel, selon la chair, est issu le Christ. Le premier tableau, au verset 5 à 25, est celui du sacrificateur Zacharie et de sa femme Élisabeth. Ils étaient justes devant Dieu, et nous pouvons déduire que leur vie était caractérisée par la foi et donc aussi par l'obéissance aux ordonnances de la loi. Pourtant, lorsqu'un ange dit à Zacharie que sa femme avancée en âge et stérile enfantera un fils, il demande que lui soit accordé un signe à l'appui de la simple parole de Dieu. En ceci, il montre bien qu'il est un croyant incrédule, quoique tout à fait conforme à sa race, car les Juifs demandent des miracles ou des signes, voire 1 Corinthiens 1 verset 22. Et il en supporte la peine en gouvernement, puisque le signe accordé est la perte de la parole. Mais ce signe est tout à fait à propos. Le psalmiste avait dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » Psaume 116, verset 10. Zacharie n'a pas cru, c'est pourquoi il ne peut parler. L'ange prédit à Zacharie que son fils sera grand devant le Seigneur et sera rempli de l'Esprit Saint, afin que dans l'esprit et la puissance d'Élie, il prépare au Seigneur un peuple bien disposé. Au verset 6, 9, 11, 15, 16 et 17, « Seigneur » est l'équivalent de « l'Éternel » de l'Ancien Testament. Aussi la venue du Messie sera-t-elle la venue de l'Éternel. Il devait y avoir sur la terre des gens préparés à recevoir le Christ lorsqu'il viendrait. Cet évangile nous présente donc, au début, un sacrificateur pieux, accomplissant les rites de la loi dans le temple et recevant une promesse concernant un peuple qui attend l'apparition du Messie sur la terre. Il nous faut apporter une attention particulière à ce point, car nous allons voir que cet évangile nous fait passer de la loi à la grâce et de la terre au ciel, si bien qu'il se termine par la grâce annoncée à toutes les nations, et par l'ascension de Christ dans les cieux, où il prendra son service de souverain sacrificateur. Au chapitre 1, le sacrificateur terrestre est muet. Dans les derniers versets de l'Évangile, les hommes qui vont être sacrificateurs dans la nouvelle dispensation du Saint-Esprit sont dans le temple et rien moins que muets. Ils louent et bénissent Dieu. Dans les versets 26 à 38, l'ange annonce à Marie la conception et la naissance de son fils. Marie est le vase d'élection de ce grand événement. Il nous faut relever brièvement quelques détails fort importants. En premier lieu, le verset 31 déclare sans équivoque que ce fils est véritablement homme né de femme, selon Galates 4, verset 4. En second lieu, les versets 32 à 33 déclarent qu'il est bien plus qu'un homme ordinaire. Il est grand, comme personne ne le fut jamais, puisqu'il est fils du Très-Haut. Il est appelé à être le roi, attendu par la maison de Jacob, et à recevoir un royaume qui demeure à toujours. Nous remarquons que, jusqu'ici, il n'y a aucune allusion à quoi que ce soit en dehors de cette attente du Messie, qui avait son fondement dans les prophéties de l'Ancien Testament. Le fils du Très-Haut venait pour régner, et rien dans le message ne précisait que ce règne ne s'établirait pas immédiatement. Une difficulté se présente à l'esprit de Marie. qu'elle exprime au verset 34. L'enfant qui allait venir devait avoir David pour père, et pourtant être le fils du Très-Haut. Marie ne demande pas un signe, puisqu'elle accepte les paroles de l'ange, mais bien une explication. Comment cela arrivera-t-il? La question de Marie et la réponse de l'ange au verset 35 à 37 déclarent à l'évidence, troisième point, la réalité de la naissance miraculeuse de Jésus et le caractère tout à fait surnaturel de sa nature humaine. Il y aurait une intervention du Saint-Esprit pour la conception de la sainte chose, puis la puissance du Très-Haut couvrirait Marie de son ombre, opération qui se poursuivrait, croyons-nous, jusqu'à la naissance de la sainte chose pour la protéger. Un vase de chair et de sang serait ainsi préparé pour l'incarnation du Fils de Dieu. Il est véritablement fils de David, comme l'indique la fin du verset 32, mais Romains 1, verset 3 montre que c'est le Fils de Dieu qui est devenu fils de David selon la chair. Au verset 35 de notre chapitre, il n'y a pas d'article devant « fils de Dieu ». La sainte chose sera appelée « fils de Dieu ». Cela indique le caractère plutôt que la personne elle-même. Lorsque le Fils de Dieu devint le Fils de David, par l'intermédiaire de Marie, il y eut un déploiement de la puissance de Dieu telle que la sainte chose, née de Marie, fut Fils de Dieu en caractère et en conséquence, le vase qui convenait à son incarnation. C'était un miracle de premier ordre, mais l'ange avait bien dit « Rien ne sera impossible à Dieu ». La foi de Marie et sa soumission au bon plaisir de Dieu, la concernant, ressortent magnifiquement au verset 38. Les versets 39 à 45 montrent la piété et l'esprit de prophétie qui caractérisent Élisabeth, car, en voyant Marie, elle reconnaît immédiatement en celle-ci la mère de mon Seigneur. Elle est remplie de l'Esprit Saint et reconnaît Jésus comme son Seigneur avant même sa naissance. Exemple instructif de ce qui est dit en 1 Corinthiens 12, verset 3. Nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Puis nous avons au verset 46 à 55 le cantique de Marie aux accents prophétiques. Celui-ci est produit par la conviction qu'a Marie de l'extraordinaire miséricorde dont elle est l'objet dans son humble position. Quoiqu'elle descende de David, elle n'est que la fiancée de l'humble charpentier de Nazareth. Dans la miséricorde dont elle est l'objet, elle voit le gage que ceux qui craignent Dieu seront élevés et que les orgueilleux et les puissants de ce monde seront dispersés. Elle comprend, de plus, que la venue de son enfant allait être l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, promesse inconditionnelle de Dieu. Loin d'elle la pensée qu'Israël ait mérité quoi que ce soit sous l'alliance de la loi. Tout repose sur l'alliance de la promesse. Ceux qui avaient faim sont remplis de biens, les riches renvoyés à vide. C'est toujours ainsi que Dieu agit. Ne manquons pas de remarquer que Marie parle de « Dieu mon Sauveur ». Quoiqu'elle fût la mère de notre Sauveur, elle-même trouvait son Sauveur en Dieu. Au temps attendu, le Fils est né à Zacharie et Élisabeth, et au moment de la circoncision de l'enfant, la bouche de Zacharie est ouverte. Il écrit « Jean est son nom », montrant que maintenant il accepte sans réserve la parole de l'ange et qu'ainsi le nom de son fils est une question réglée. Il croit enfin, bien que ce soit une foi qui suive la vue, tout à fait à la façon juive. En conséquence, Zacharie cesse d'être muet. Il loue Dieu et, rempli de l'Esprit Saint, prophétise. Il est frappant de remarquer que, bien que cette prophétie soit motivée par la naissance de son fils Jean, cet enfant n'occupe dans l'esprit de Zacharie qu'une place secondaire et accessoire. Le grand thème de ses paroles est le Christ de Dieu, encore à naître. Il met toutes choses à leur juste place, conséquence du fait qu'il est rempli de l'Esprit, qui magnifie toujours le Christ. Si Zacharie s'était simplement exprimé dans l'enthousiasme causé par la naissance de ce fils inespéré, il aurait parlé surtout ou uniquement de ce fils et de la charge élevée de prophète à laquelle il était appelé. Il parle de la venue du Christ comme si elle avait déjà eu lieu et il en célèbre les effets comme s'ils étaient déjà réalisés. Ceci est particulier à la prophétie. Elle parle, comme étant déjà accomplie, de choses qui, historiquement, sont encore à venir. Pour l'instant, le prophète est transporté dans son esprit en dehors de toute considération de temps. Dans l'apparition imminente du Christ, Zacharie voyait le Seigneur, le Dieu d'Israël, visitant son peuple pour le racheter. Le salut qu'il apporterait délivrerait les siens de tous leurs ennemis et leur permettrait de le servir en toute liberté, sainteté et justice tous les jours de leur vie. Et tout ceci serait l'accomplissement de sa promesse et de son serment à Abraham. Remarquons comment le Saint-Esprit inspire Zacharie pour qu'il parle de la promesse inconditionnelle faite à Abraham, exactement comme Marie l'avait fait. La bénédiction d'Israël reposera sur cette base, et non sur celle de l'alliance de la loi. Dans tous ces événements, nous n'observons pas encore une nette distinction entre la première et la seconde venue du Christ. Les versets 68 à 75 envisagent des choses qui ne s'accompliront dans toute leur acception qu'à sa seconde venue. Il est exact que le Christ a accompli la rédemption à sa première venue, mais c'est une rédemption par le sang et non par puissance. Il est bien vrai que la sainteté et la droiture avec lesquelles le peuple d'Israël, restauré et délivré, servira son Dieu durant le glorieux millénium, seront fondées sur l'œuvre de la croix. Néanmoins, dans ces versets, les deux venues sont considérées comme un tout. Les versets 76 à 77 se rapportent directement à Jean qui vient de naître. Il ira devant la face de l'Éternel pour préparer ses voies. Il donnera la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. C'est ce qu'il a fait, comme indiqué au verset 3 du chapitre 3, en relation avec le baptême qu'il prêchait. Remarquons qu'ici, son peuple prend un sens assez nouveau. Non pas Israël en tant que nation, mais ceux qui composaient le résidu croyant au milieu de ce peuple. Tout se trouve sur le terrain de la miséricorde, même pour Jean et son ministère semblable à celui d'Élie. C'est la rémission de leurs péchés par les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Versets 77 et 78. Dans les versets 78 et 79, Zacharie revient à la venue du Christ. Et évidemment, tout se situe sur le terrain de cette même miséricorde, car l'expression « selon lesquels » lie ce qui suit à la miséricorde mentionnée juste avant. L'Orient d'en haut est une description du Christ particulièrement belle. On pourrait remplacer « Orient » par « aube du jour » ou « lever du soleil ». La venue du Christ marquait, à la vérité, l'aube d'un jour nouveau. L'homme sur la terre a toujours vu le soleil qui se lève monter à l'horizon. Ce lever de soleil descend d'en haut. L'Esprit de Dieu pousse Zacharie à annoncer l'aube d'un jour nouveau, bien que l'extraordinaire beauté en soit encore cachée à ses yeux. Il comprend cependant que ce jour introduira à la fois lumière et paix pour les hommes. Et ici, il se met en effet à parler de choses qui ont trouvé leur heureux accomplissement à la première venue du Christ. Lorsque débuta le ministère public du Christ, la lumière commença à briller, et le chemin de la paix fut véritablement établi par sa mort et sa résurrection, chemin où les disciples furent conduits aussitôt après. La prophétie de Zacharie se termine sur cette note d'une beauté remarquable. La première mention que nous avons de Zacharie le montre homme troublé et craintif. Le dernier mot de lui que rapporte l'Écriture est « paix ». Par la foi, il avait vu la venue du Sauveur, semblable à l'aube d'un jour nouveau de bénédiction, et cela changeait tout. Le verset 80 résume toute la vie de Jean jusqu'au début de son ministère. Dieu s'occupe de lui en secret dans les déserts, l'instruisant en vue du service solennel qui serait le sien dans les jours à venir, prêcher la repentance.